Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux personnes d'exception qui s'impliquent activement dans leur communauté pour donner un peu de bonheur et d'espoir. Installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des Héros Anonymes. Alors, bienvenue à cette deuxième saison des Héros Anonymes. Vous le savez, c'est pas la première fois qu'on le fait cette saison. On avait l'envie un peu folle, tiens, de vous présenter non pas seulement des organismes qui sont extraordinaires, mais aussi des gens qui sont tout aussi exceptionnels et qui travaillent bien souvent dans l'ombre et qui méritent, entre vous et moi, un peu plus de lumière, certainement. Et c'est un grand plaisir pour moi de recevoir en studio, à l'autre bout du fil, Éric Marquis. Bonjour, Éric.
Bonjour, Daniel.
Merci d'être là. Merci de prendre quelques minutes de ta journée pour nous partager un peu ce que tu fais. Éric, tu es associé courtier immobilier commercial chez Bender et associé agence immobilière. C'est bien ça?
Exact.
Excellent. On ne va pas parler beaucoup d'immobilier si ça ne te dérange pas aujourd'hui.
Il n'y a pas de problème.
Même si c'est un sujet là, qui est fort passionnant. Mais moi, j'ai eu le plaisir de te connaître dans le cadre d'un événement qui est un événement des Jeunes Philanthropes de Québec. Pas le dernier événement en septembre dernier, mais l'autre précédemment, alors que tu étais encore sur le conseil d'administration. Et j'ai découvert un monde. J'ai découvert le monde de la philanthropie dans la région de la capitale nationale. Je t'ai découvert, toi, à ce moment-là. Puis ça a piqué ma curiosité. Puis ton nom est apparu sur le radar pour l'émission. Alors très heureux que je puisse te découvrir encore davantage, mais que les auditeurs aussi puissent le faire.
Un plaisir partagé, Daniel.
Ben tant mieux. On va essayer de passer la prochaine demi-heure dans le grand plaisir, puis de mettre en lumière justement il y a différentes façons de s'impliquer. Toi, je pense que le bénévolat est arrivé rapidement dans ta vie, déjà dans la jeune trentaine. Tu as une feuille de route qui m'apparaît fort impressionnante. Comme je disais, tu as été administrateur aux Jeunes Philanthropes de Québec, qui a tenu son plus récent événement en septembre dernier. Ben déjà on peut peut-être mettre la table. Ça devient d'où cet intérêt-là? Puis on parlera des Jeunes Philanthropes juste après, mais déjà, c'est arrivé comment, je vais vous dire, dans ton ADN, cet appel-là pour la philanthropie puis l'implication dans la communauté?
Ça commence tôt, et je dirais que ça commence pas directement, ça s'est fait un peu par la bande. Dans le sens où, bon, quand j'étais un petit peu plus jeune, mes parents faisaient partie d'un organisme qui s'appelait le Club d'Éric Chaulieu, dans le coin de Lac-Mégantic, là où j'ai grandi. Et ben, j'ai vu mes parents un petit peu s'impliquer dans ce groupe-là, organiser en fait là, des événements pour ramasser des sous pour permettre aux jeunes, entre autres, là, de jouer au soccer. Et bon, moi, j'y jouais également. J'ai commencé à jouer... et à coacher aussi des plus jeunes. Puis bon, de fil en aiguille, on a de l'intérêt pour dire, ben écoute, c'est le fun de redonner au suivant, de rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, dans les associations étudiantes par la suite, au niveau du cégep, au niveau de l'université, donc j'ai toujours été impliqué là dans ces années-là. Et puis, ça m'est apparu quand j'ai fait... une rencontre là dans un événement de réseautage plus de type professionnel, mais il y a quelqu'un qui cherchait une paire de bras carrément pour venir participer à un événement des jeunes philanthropes. Puis j'ai dit, ben écoute, moi j'ai rien de prévu cette journée-là. Alors, ça va me faire plaisir de venir t'aider pour l'événement. Puis j'ai tellement passé une belle soirée que je me suis dit, mon Dieu, j'ai envie de faire plus. Et bon, j'ai été en mesure là, d'être sur le comité d'organisation des événements. Ensuite de ça, pendant environ un an et demi, deux ans. Puis on m'a demandé également par la suite de poursuivre mon implication plus au niveau stratégique sur le conseil d'administration. Donc, ça a été un petit peu là, de fil en aiguille. En fait, on voit pas ça aller, mais l'implication a comme grandi là, avec le temps. Puis aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de mon ADN, de dire, ben, moi, je veux faire un petit quelque chose au moins de façon constante là, pour être capable d'avoir un impact dans la communauté.
Fait que tout ça a parti d'une implication de bénévolat de bras, pour reprendre tes mots, et clairement, ça a semé une graine qui était déjà là, qui partait probablement du soccer puis des autres opportunités plus tôt dans ta vie, pardon. Mais c'est quand même plus on vieillit, plus il y a des obligations, plus on a une vie bien remplie. Mais de là, tu sais, à se dire, ben, il y a quand même quelques heures dans ma semaine qui vont être consacrées pas à aller regarder un match de quoi que ce soit, pas à aller passer du temps avec mes amis, avec mes proches, mais à redonner à la communauté, c'est pas rien quand même comme décision, puis comme mode de vie. Comment ça vient nourrir quelque chose, probablement aussi, j'imagine, le bénévolat, puis cette implication-là de ton côté?
Ben exactement, c'est dans l'immobilier commercial, évidemment, on est très dans le corporatif, ouais. Là, donc dans les décisions financières, etc. Donc, c'est hyper, hyper plaisant, mais je trouve que d'aller chercher dans quelque chose où on est vraiment dans le pro bono, on est vraiment dans le plaisir, puis dans le redonner au suivant, je trouve que ça m'apporte quelque chose, personnellement, à moi, qui je trouve qu'il est sain, qui est équilibré par rapport à ce que je fais là, dans la vie de tous les jours. Et oui, c'est quelques heures par semaine, par mois, tout dépendamment des implications, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire comme citoyen de dire, ben, il faut qu'on soit en mesure de le faire. Je fais quand même partie des gens qui ont été privilégiés. Là. C'est-à-dire que j'ai pas eu de problématiques bon, de santé ou de vécu dans un bon milieu, etc. Mais je pense que il faut pas prendre ça pour acquis. Puis il faut penser aux autres aussi là-dedans. Et la façon de le faire, je trouve qu'il est la plus simple, c'est de le faire en ayant du plaisir. Donc, moi, quand je m'implique, je souhaite m'entourer toujours de gens avec qui je vais avoir du plaisir à le faire et pour pas que ça devienne une obligation. Donc, je pense que ça, c'est primordial. Quand on fait du bénévolat, il faut être en mesure de le faire avec le sourire, il faut avoir envie de prendre le temps. Et dans mes implications, pour le moment, ça a toujours été le cas. Donc, je touche du bois là, en espérant que ça se continue comme ça. Mais c'est ce qui nous permet de continuer à le faire.
Ben, je pense que la clé est là quand c'est dans le plaisir, puis que ça devient pas forçant d'une certaine façon. Je pense que c'est tout à l'avantage de tout le monde et de la société en général. Mais j'en ai pas croisé des tonnes de jeunes philanthropes, mais puis de jeunes personnes impliquées, là, puis bon, j'ai de l'air vieux quand je dis ça, je suis encore dans la trentaine, là. Mais on voyait dans les générations précédentes beaucoup des gens s'impliquer dans la communauté, des familles, je pense, bon, prendre la famille Desmarais, par exemple, qui est un grand exemple, on les a vus très impliqués dans la francophonie canadienne, dans tout ça, puis on voit que de génération en génération, ça se transforme un peu, cette forme d'implication-là, et j'en croise peut-être moins qu'avant, ou c'est juste que ça s'est transformé. C'est quoi ta lecture par rapport à l'implication des jeunes et de la relève philanthropique, là, je vais vous dire?
Oui, ben c'est une très bonne question. C'est sûr que, puis là, je vais prendre ma génération en descendant, là, donc début trentaine, et plus jeune, c'est sûr que on voit ça moins passer parce que c'est pas des dons par exemple majeurs. C'est sûr que quand la famille Desmarais décide d'allouer un certain pourcentage de leur budget pour une cause, ben évidemment que ça passe pas inaperçu. Ceci dit, c'est vraiment plus à petite échelle. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a certains de mes collègues, mes amis, qui eux, ben sont à l'aise à faire des dons monétaires, mais l'implication que je vois le plus, moi, c'est vraiment au niveau du temps, au niveau d'allouer des ressources, de monter des projets pour faire une différence et non pas de faire ça inaperçu. Et dans la plupart des cas, ben c'est pas les jeunes qui se mettent eux-mêmes de l'avant en faisant du bénévolat. Hein. C'est pas pour avoir de la visibilité ou pour quoi que ce soit. C'est vraiment pour la cause. Et puis, ben, ces gens-là, généralement, c'est la cause qu'ils vont mettre de l'avant. Donc, c'est peut-être pour ça, un peu le principe aussi de l'émission, là. C'est de dire, ben, on met vraiment la cause, c'est de la négation, là. Puis on s'efface un petit peu derrière ça pour porter la mission. Mais c'est vraiment plus en termes de temps alloué. Je pense que les jeunes ont de l'intérêt à s'impliquer, à monter des événements, par exemple. Donc, c'est le genre d'implication que je vois le plus souvent. Là.
Oui, puis on le voit, entre autres, dans l'exemple de la région de Québec est très bon. On a déjà reçu bénévole d'expertise sur nos ondes qui met en lumière, qui met en valeur, bien, justement, les différentes possibilités de s'impliquer. Puis ces implications-là se font beaucoup par le temps. Puis ce temps-là a une valeur inestimable. Alors, je pense que le bénévolat est une belle porte d'entrée, probablement, pour la relève philanthropique qui... Ben, on se le cachera pas, là, d'une génération à l'autre, c'est sûr qu'il y a des écarts. Les plus jeunes, ben, ils ont peut-être un début d'hypothèque à payer, s'ils ont été capables de s'acheter une maison. Et d'autres implications financières versus, ben, les donateurs qui sont les plus généreux, qui sont ceux qui ont, qui ont le moins d'implications financières. Est-ce que vous voyez, d'autres défis pour ce transfert-là de valeurs philanthropiques d'une génération à l'autre parce que les besoins sont croissants, les besoins sont là. Les jeunes comme vous, ben, redonnez beaucoup de temps, ce qui a beaucoup de valeur, mais il y a quand même aussi ultimement un besoin financier qui doit quand même être répondu, là.
Oui, mais ça fait partie des enjeux qu'on regardait là et que je suis convaincu qu'ils continuent à regarder là au niveau des jeunes philanthropes. Et là, j'ai plus les statistiques par cœur, mais le nombre de philanthropes, disons, en termes de monétaire, là, disons que c'était très âgé en termes de moyenne d'âge, là, et donc ça devient un enjeu effectivement s'il n'y a pas de transmission, disons générationnelle, là, de philanthropie. Ben c'est sûr qu'on va avoir un problème tantôt parce qu'il y a beaucoup d'organismes, comme entre autres Centraide, comme d'autres organismes là à travers le Québec, ben, qui comptent sur ces dons-là pour être capables de faire leurs opérations et accomplir leur mission. Donc c'est sûr que ça c'est un enjeu majeur. Et je pense que la solution à ça, ben c'est sûr qu'il faut continuer à en parler. Il faut continuer à miser sur l'éducation, parce que la philanthropie, je suis convaincu que la majorité de la population, tu sais, est plus ou moins capable d'expliquer le terme ou de le comprendre. Les gens pensent que c'est souvent un don d'argent seulement, alors qu'il n'y a pas seulement cette facette-là. Fait que je pense qu'il faut continuer à en parler, puis il faut démocratiser le tout, la rendre accessible. Puis c'est ça qui va être la recette pour que les jeunes se sentent impliqués là-dedans, puis qu'ils soient capables d'aider à leur façon. Mais je suis quand même optimiste là pour l'avenir, mais c'est juste qu'il faut garder le cap.
Oui, tout à fait. Puis la philanthropie, on parle souvent en anglais du principe des 3 T, là, time, treasure and talent. Donc, on remet du temps, on remet de l'argent, puis on peut remettre aussi de l'implication d'expertise. Et votre implication que vous aviez avec les jeunes philanthropes de Québec, la mission, là, c'est d'offrir à la jeunesse des événements accessibles pour évidemment les sensibiliser aux enjeux de la région. Je pense que le dernier événement, entre autres, était au profit de Moisson Québec. On va en reparler dans quelques instants, mais les jeunes philanthropes de Québec, ça contribue aussi, je pense, dans une certaine mesure, à créer cette culture philanthropique-là auprès des jeunes, puis probablement que c'est un premier pas dans cette direction-là.
Exactement. Le mot-clé qu'on utilisait, c'est vraiment démocratiser. Donc, et ça passe par rendre accessible. Donc, on voulait que, oui, la jeunesse d'affaires, mais la jeunesse au sens large, puisse participer à des événements qui en retirent du plaisir. On en parlait tout à l'heure. Donc, qu'il y ait du plaisir à cet événement-là. On les mettait en contact avec différentes causes, là, dont Moisson Québec, Autisme Québec également. Il y avait plusieurs causes là qui étaient parrainées par cet organisme-là à chacun des événements. Et ça fait en sorte que ben non seulement on sensibilise à la cause qu'on supporte, mais aussi c'est qu'on rend accessible le geste philanthropique. Donc, d'acheter un événement, d'acheter un billet pour un événement qui va coûter, je donne un exemple, 100 $ pour le billet, ben la personne qui est pas conscientisée nécessairement au niveau de la philanthropie va quand même y retirer sa plus-value, même si au départ, il connaît rien de la cause, puis il sait pas que c'est un événement philanthropique. Donc, en étant sur place, nous, on est capable de les sensibiliser à coup de quelques centaines d'invités à la fois, puis par la suite, là, eux, ben leur donner le goût de s'impliquer, que ce soit avec la cause qu'on met en lumière ou avec une autre. L'important, c'est juste qu'ils soient sensibilisés à ça. Ah oui. Qui participent à d'autres événements de ce genre-là ou qui eux-mêmes décident de dire ben, je vais partir une initiative ou je vais m'impliquer comme bénévole dans une autre cause.
Certainement, et c'est une mission qui est très, très noble et très louable. Éric Marquis, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause et justement dans cette pause-là, on va en entendre un peu plus sur Moisson Québec, qui est un organisme, là, je pense, auquel vous venez de vous joindre comme jeune ambassadeur. On va en parler tout de suite après, si vous voulez bien. Alors, restez à l'écoute.
La semaine de la solidarité nous ramène aux valeurs profondes qui animent notre société. Cette année, nous voulons mettre les bouchées doubles pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En faisant le tour du Québec au cours des derniers mois, j'ai bien vu à quel point les besoins sont importants. Pour de nombreuses personnes, se nourrir est un défi constant. Agir pour les soutenir, c'est une belle façon de montrer notre solidarité au cours de cette semaine et tout au long de l'année. En cette semaine dédiée à l'entraide, je nous invite à manifester notre solidarité en donnant généreusement aux banques alimentaires.
Se nourrir chaque jour de l'année représente un défi pour de nombreuses personnes au Québec.
Si on veut une société qui avance, une société qui est plus juste, bien, il faut être solidaire.
Notre vaste réseau d'entraide est engagé dans l'aide alimentaire. Chaque mois, nous récupérons et distribuons des tonnes de nourriture pour les gens dans le besoin partout au Québec.
L'alimentation, c'est la base. C'est la base. Si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire tes choses. Tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas être concentré, tu ne peux pas te trouver un emploi puis être performant.
Chaque mois, les banques alimentaires du Québec offrent 1 189 000 repas, 590 000 collations et 493 000 paniers de provisions.
S'impliquer, c'est toutes les raisons du monde. C'est comme choisir un quartier pour aller habiter. T'sais, dans le fond, on choisit une communauté, puis on vit avec cette communauté-là. Il faut s'impliquer socialement dans le groupe.
Les Moissons, on est des organismes portés par notre collectivité. C'est grâce à notre communauté, aux dons en denrées, en argent et en temps, qu'on est en mesure de redonner à nos communautés, puis s'assurer que chaque personne peut manger à sa faim 3 fois par jour.
Moi, je suis un bénévole régulier. Je suis 3 jours semaine. Les organismes ont besoin beaucoup d'aide, beaucoup de nourriture pour les gens. Puis ça varie maintenant aussi beaucoup les jeunes et les 20 personnes âgées.
La solidarité sociale et alimentaire, c'est une force humaine. C'est à tous les jours des gens qui viennent cuisiner avec cœur et en train dans notre cuisine de production, qui vont produire 130 repas par jour, puis qui vont le faire en riant.
Quand tu donnes de ton temps, quand tu donnes des sous, quand tu donnes des denrées, je pense que tu vas jamais regretter le geste que tu poses.
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité, mettons les bouchées doubles. Donnons aux banques alimentaires du Québec. Le geste le plus important est celui que l'on pose.
Alors, sur ces belles paroles, on est effectivement dans la Semaine de la solidarité, puis j'étais très heureux de présenter ce clip-là, bien, qui parle, entre autres, bien, des banques alimentaires et de Moissons Québec. Vous vous êtes joint à Moissons Québec comme jeune ambassadeur récemment, je ne me trompe pas?
Exactement, c'est tout récent. C'est évidemment un contact que j'avais fait dans mes précédentes implications et qui ont dit on a besoin d'un coup de main. Et donc, comme j'avais laissé ma place au niveau des jeunes philanthropes après tout près de 3,5-4 ans là, d'implication, bien, je me disais je suis maintenant libre et disponible, donc ça me fera plaisir de pouvoir apporter ce que je sais, ce que j'ai développé avec les jeunes philanthropes là, pour Moissons Québec, effectivement.
Et Moissons Québec, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisme, ben, ça fait partie de ce qu'on appelle une banque alimentaire. Donc, j'imagine évidemment que c'est là pour offrir des denrées alimentaires aux gens qui ont soit des enjeux financiers ou des enjeux d'insécurité alimentaire. Moissons Québec, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette cause-là qui vous a interpellé? Parce qu'on se le disait d'entrée de jeu, si vous n'avez pas eu... Vous n'avez pas vécu d'enjeux de santé, d'enjeux particuliers. Alors, je vous dis, mais comment votre choix s'est arrêté sur Moissons Québec?
En fait, c'était plus par besoin. Puis ils ont levé la main, puis je connaissais évidemment déjà l'organisme, mais en discutant avec Elisabeth qui travaille là, chez Moissons Québec, elle me parlait un petit peu de la cause, puis de qu'est-ce qu'ils font. C'est un relativement un petit organisme. Je pense qu'ils sont une quinzaine d'employés et c'est la seule banque alimentaire de la grande région de Québec. Donc là, je faisais des calculs, 15 employés, et je sais qu'il aide à peu près 80 000 personnes par mois. Donc je me suis dit, mon Dieu, si on pouvait donner un coup de main, puis le besoin est toujours grandissant. Ah oui. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre la main à la pâte, et c'est pas dans les prochaines années que ça va s'améliorer là, avec l'augmentation des prix, l'inflation. On le voit de plus en plus, donc j'ai pas été heureusement touché personnellement ou par quelqu'un de près par l'insécurité alimentaire, mais je sais que c'est un fléau qui nous touche là, de plus en plus, et plutôt c'était en lien avec l'expertise là, que j'avais développée, donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça à profit puis s'engager là, pour les prochaines années avec cet organisme-là.
Bien, ils sont très chanceux de vous avoir chez Moissons Québec, je vais vous dire, vous êtes un citoyen fort engagé. Clairement, l'expression de dire qu'on fait les choses pour les bonnes raisons, je pense que ça s'applique extrêmement bien à vous. L'implication que vous faites, le fait d'être philanthrope, clairement, il y a un retour du balancier. Ce retour-là, il est plus dans le ressenti, il est plus dans le côté moral des choses. Mais c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que vous ressentez? Puis qu'est-ce que ça vous donne, je vais vous dire, sur une base très, très personnelle, de vous impliquer comme ça dans la communauté?
Moi, j'ai toujours vu la philanthropie comme un geste égoïste à la base, dans le sens où la satisfaction personnelle qu'on en retire de donner, il faut le faire là, pour le comprendre. C'est un acte qui est vraiment pur, je trouve, que de dire, quand je vais donner mon temps, ou je vais donner des sous. Puis, tout de suite, quand on le fait, on ressent quand même ce sentiment-là de satisfaction, puis de dire, au moins, j'ai pu avoir un impact. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, là, la raison de pourquoi moi, je m'implique. C'est très satisfaisant là, comme sentiment de dire, on a passé les 3-4 derniers mois à monter un événement, de voir les gens, par exemple, sur place, avoir du plaisir, de voir finalement le don également qui est remis à la cause, de dire tous ces efforts-là, finalement, on a réussi à monter un projet qui a fait du sens, puis ça a été un succès. Donc, c'est un immense sentiment de fierté que je trouve qui est un petit peu comme un rush d'adrénaline là, qu'on vit. Donc, ça, c'est ce que je recherche aussi là, dans mes implications, de dire le sentiment de faire une différence. Je trouve que ça apporte une grande satisfaction.
Bien, certainement, vous en faites une différence. On a parlé un peu beaucoup, je dirais même, des jeunes philanthropes de Québec. Des jeunes philanthropes, pour moi, ça a été une belle découverte, je vais vous avouer, parce que, j'ai beau avoir habité quelques années à Québec, je n'y suis plus depuis un certain temps. Et quand j'ai vu la communauté philanthropique de Québec, cette relève-là, ces jeunes-là qui ont le goût de s'impliquer à la hauteur de leurs moyens, puis en fonction du temps qu'ils ont, j'ai été impressionné vraiment de la vivacité, du dynamisme de la communauté de ces jeunes-là en philanthropie. Est-ce que selon vous, puis soyons chauvins un peu, là, est-ce que les citoyens de Québec et cette jeune relève philanthropique-là de Québec a une plus grande force qu'ailleurs dans la province, peut-être même une plus grande force que Montréal, si on ose le dire?
C'est une excellente question. Je m'y connais pas assez au niveau de la relève philanthropique du côté de Montréal pour pouvoir me prononcer. Ce que je sais, par contre, c'est que je suis excessivement fier de ce que la communauté de Québec fait actuellement comme démarche, et je pense que c'est le début de quelque chose. Hein. Ça fait quand même quelques années que les jeunes philanthropes existent. On parle d'environ 14 ans, mais il y a plusieurs autres initiatives là qui ont vu le jour, dont le réseau des jeunes ambassadeurs de Moisson Québec. Et donc, je pense qu'on est au tout début de quelque chose. Je pense qu'on n'a rien à envier à d'autres villes, à d'autres secteurs. Par contre, c'est sûr qu'il reste du travail à faire, puis on peut toujours s'améliorer. Et ça, je pense que c'est pour toutes les régions.
Oui, certainement. Puis, bien, clairement, vous n'avez rien envié à personne, je vous le confirme, pour observer la philanthropie un peu partout au Québec et au Canada depuis quelques années. Franchement, c'est pas gênant du tout, tout ce que vous avez réussi à mobiliser comme effort et comme intérêt aussi, parce que je pense que la philanthropie, elle arrive des fois par transfert de génération, là, par des valeurs des parents qui sont transmises, mais elle arrive aussi par des belles rencontres qui font en sorte que ça arrive, qu'il y a quelque chose qui commence, qui débute. Puis j'ai lu, puis je me suis renseigné, puis dans les personnes que vous avez croisées, il y a une certaine Alice Mani qui a peut-être joué un peu aussi dans l'influence, puis dans votre désir de vous impliquer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, sur elle?
Absolument. En fait, c'est une drôle de rencontre. Puis je pensais à... Quand on pense souvent à mentor, on pense à quelqu'un de, souvent plus âgé, plus expérimenté, etc. Mais Alice a été une rencontre fortuite, vraiment. Je l'ai rencontrée à travers les implications que j'ai eues. Et juste par les valeurs qu'elle défendait, honnêtement, ça m'a vraiment inspiré. Et ça m'a donné envie de me connaître un peu sur cette personne-là. Puis de dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, puis qu'est-ce qu'on peut monter comme projet, puis d'implication. Et elle sait faire bien les choses, là, donc j'ai eu envie de m'impliquer avec elle, puis de dire, on part, puis on a fait quelques années ensemble là, avec les jeunes philanthropes. Donc c'est elle, entre autres, qui m'a donné envie là, de mettre la philanthropie un petit peu dans mon quotidien, puis d'avoir une implication constante là, à travers les années.
Bien, tant mieux, c'est des belles rencontres qui font des petits. Ces petits-là peuvent avoir un grand impact. Puis je pense que c'est ce qu'il faut retenir, entre autres, ce que je retiens de notre échange. Et oui, il y a les dons astronomiques là, qu'on voit passer là, lorsqu'on ouvre le journal puis qui font évidemment la différence. Là. C'est bien évident, mais qu'à petite échelle ou à échelle humaine, puis à échelle sur une base de temps et d'implication, on peut faire changer les choses, on peut améliorer les choses certainement, puis vous le faites de manière extraordinaire. Éric, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, évidemment, personnellement, puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter à toute cette belle relève philanthropique-là qui ne sait peut-être pas encore exactement quelle place, quel rôle va jouer, à quelle hauteur, mais qui a un intérêt, certainement, à contribuer à changer les choses?
Bien, c'est une très bonne question. Je pense que ce qu'il faut se souhaiter, c'est de la constance, entre autres, puis d'avoir les opportunités de le faire. Je connais plusieurs entreprises à Québec, puis probablement qu'ailleurs, ça, c'est pareil. Entre autres, les cabinets d'avocats qui, eux, sont sensibles à ces éléments-là et qui permettent à leurs jeunes employés, à leur relève, de s'impliquer sur différentes causes. Et je pense que si on peut souhaiter collectivement d'être plus conscientisé à ça, assurément que ben là on va voir là, les différents projets voir le jour, on va voir les projets déjà en place être plus intéressants, donc être capable de ramasser plus de sous, mobiliser plus de personnes. Donc, je pense que si on pouvait se souhaiter plus de conscience là, du domaine philanthropique, c'est sûr que ça nous serait utile, je pense, comme société.
Oui, puis c'est pas étranger au fait qu'on voit quand vous parlez des entreprises et des cabinets. On voit de plus en plus l'importance de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE qu'on appelle, des entreprises qui ont une certification B Corp, donc qui vient d'ailleurs attirer certains talents, puis qui vient faire partie des valeurs de plus en plus recherchées des talents sur le marché de l'emploi. Alors je pense qu'il y a une opportunité pour tout le monde de se retrouver dans ce qu'on peut appeler d'avoir les valeurs à la bonne place, là.
Absolument. Et ça, il faut que ça continue. Je pense que c'est relativement nouveau là, comme phénomène. Oui. On le voit de plus en plus, des employeurs qui libèrent leurs employés pour une journée, deux journées, trois journées de travail pendant l'année, pour justement redonner au suivant. Je pense que si tout le monde mettait la main à la pâte comme ça, on verrait vraiment une grosse différence là, à très court terme.
Bien, certainement. Merci, Éric Marquis, de faire la différence. C'était un immense plaisir de vous recevoir en studio. Les gens qui veulent en savoir davantage sur les jeunes philanthropes peuvent se rendre sur le site jeunesphilanthropes.com au pluriel. Et pour Moisson Québec, on visite moissonquébec.com tout simplement. Merci encore, Éric.
Merci, bonne journée.
Merci à vous en ondes. Bien, évidemment, je vous invite à rester à l'écoute parce qu'on continue tout ça dans quelques instants.